Et oui, vous pensiez en être quitte avec le livre de la Genèse, puisqu'on était arrivé avec l'histoire de Joseph au chapitre 50, la fin de la Genèse, mais je me suis aperçu que j'avais raté un épisode important. Cette histoire de Caïn et Abel, et je me suis demandé pourquoi j'avais sauté cette histoire. Quel était le sens de ce lapsus? Peut-être parce qu'elle est justement trop connue, ou peut-être parce que j'ai jamais eu de frère, ou tout simplement, à l'époque, Genèse 4, 5, 6, le tableau est déjà assez sombre et je voulais pas en rajouter. Mais toujours est-il que je vous propose de revenir sur cette histoire terrible, ou cette terrible histoire, qui nous pose quelques questions quand même. Alors je replace dans le contexte, Genèse 1 et 2, la création, tout était très bon. L'homme et la femme, créés tous deux à l'image de Dieu, vivent dans une parfaite communion, l'un avec l'autre, et surtout avec Dieu. Tout était, comme le dit le mot hébreu, tout était tof, bon. Et puis, venu de nulle part, même pas de la liberté de l'homme et de la femme, vraiment de nulle part, le péché fait irruption dans le monde. Et à partir de là, à partir de Genèse 3, on assiste à une prolifération du mal dans le monde à tous les niveaux. D'abord, le niveau vertical dans la relation avec Dieu, le désir d'indépendance d'Adam et Ève à l'égard de Dieu. Et puis maintenant, Genèse 4, dans sa dimension horizontale, dans la dimension horizontale, dans la relation avec le frère, les frères, le proche, le très proche, avec dans cette histoire de la jalousie, de la haine pour le frère, et puis le crime. Le crime de sang, un crime terrible qui fait froid dans le dos, les peintres l'ont peint, et toujours avec cette violence. Et une histoire qui se termine mal, qui se termine à l'est d'Éden, à l'orient d'Éden. Une histoire entre frères, entre proches, qui se termine mal. Une histoire, somme toute, terriblement actuelle. Vous vous souvenez de ce film? Enfin, il date de 1952. Le livre « À l'est d'Éden », justement, « À l'orient d'Éden ». Un livre d'abord de John Steinbeck et un film avec James Dean, le beau James Dean. Moi, je trouve qu'il y en a deux qui sont vraiment beaux. C'est Brad Pitt et James Dean. Les autres, pas moi. Ouais. Bon, bref, avec ce film, et c'est l'histoire de Caïn et Abel, mais un petit peu romancée, et puis il y a une femme entre eux, une histoire de jalousie, puis qui mène à la violence. Je ne sais plus comment le film termine, mais mal, certainement. Banal, terriblement banal, jalousie, haine, violence. Et on peut se poser la question, qui n'a jamais perçu l'autre, le frère, la sœur, comme un rival? Qui n'a jamais été jaloux du succès d'un proche? Qui n'a jamais eu envie de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ce prochain qui réussissait dans tout ce qu'il faisait? Peut-être pas en se jetant sur lui, mais en s'arrangeant pour le mettre à l'écart. Oui, quand on parle de la prolifération du mal, on le voit aussi, parfois, peut-être, dans notre vie. Alors le problème avec Caïn et Abel, et avec le récit de Caïn et Abel, c'est, et vous l'avez certainement eu, cette impression que c'est Dieu qui crée le problème. En préférant l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Et c'est vrai que si on s'arrête au premier verset, on aurait envie de se ranger du côté des avocats de Caïn, comme il est de bon ton aujourd'hui d'être du côté des mauvais garçons. Hein, Judas, il y a des gens qui essayent de réhabiliter Judas aujourd'hui. Ou Ponce Pilate, malgré son indifférence. On trouve toujours des circonstances atténuantes, mais avant de réhabiliter Caïn, j'allais dire Calvin. Je me suis dit en préparant, ne dis pas Calvin. En parlant de Caïn, eh ben je le dis, justement, parce que j'y ai pensé. Bon, je vous propose de vous plonger un petit peu plus dans ce récit et de voir ce qu'il dit d'abord, et puis aussi ce qu'il ne dit pas. Et après seulement, de voir avec vous ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et la première question qu'il nous pose, j'en ai déjà parlé, c'est cette question de l'offrande, de Caïn et Abel. Et donc c'est une question de l'ordre de la spiritualité, comment faire une offrande qui plaise à Dieu. Et manifestement, celle d'Abel a plu à Dieu, celle de Caïn beaucoup moins. Alors pourquoi ? Alors, des commentateurs ont parlé de l'arbitraire de Dieu, dans son sens positif, c'est-à-dire que Dieu est libre d'arbitrer comme il le veut les offrandes de ses enfants. Oui, certes, Dieu est libre, Dieu est souverain, il est libre d'accepter ou de refuser une offrande. Mais la Bible ne présente jamais que Dieu comme une divinité capricieuse qui préfère la viande aux céréales pour son petit déjeuner. Et il semble évident qu'on ne peut pas chercher la réponse à cette question de l'offrande de Caïn dans la nature même de l'offrande, que ce soit des animaux ou des végétaux, n'a pas réellement d'importance, mais plutôt dans l'attitude de celui qui fait l'offrande. Et là, on a un indice dans le récit lui-même, et vous l'avez lu ou entendu, Abel offre les premiers-nés de son troupeau. Et Caïn, lui, offre ses légumes, ses céréales, ses végétaux en vrac. Pas les premiers fruits, pas les premiers légumes de sa récolte. Il aurait pu le faire. Et on le fera par la suite quand on fera des sacrifices à Dieu. On offrira les prémices de sa récolte, les premiers fruits. Mais il ne l'a pas fait. Alors vous direz que c'est un détail. Vous direz que c'est un détail, mais c'est un détail que l'auteur du récit nous fait remarquer parce que le parallélisme de la phrase n'y est pas. Abel lui aussi fit, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande, il présenta les premiers-nés de son troupeau. Et on n'a pas le parallélisme, on attendrait, il offre les premiers fruits et l'autre offre les premiers-nés. Et non. Et l'auteur veut nous le faire savoir, et n'importe quel membre du peuple hébreu, et il faut se souvenir que la Bible a été écrite pour ce peuple hébreu avant tout, enfin premièrement on va dire, pour eux, pour le lecteur hébreu, c'est un détail qui vient, qui est évident, et il relève la différence. Un détail important. Et surtout, ce détail va nous révéler que le problème ne se situe pas donc au niveau de la nature de l'offrande, mais au niveau de la disposition du cœur de celui qui offre. Caïn ne fait pas l'offrande qu'il aurait pu faire. Il ne fait pas à Dieu le plus beau cadeau possible. Il fait une offrande quelconque et il garde le meilleur de sa récolte pour lui. Et cela en dit long sur le cœur de Caïn. Et donc le problème n'était pas que l'offrande d'Abel ait été meilleure que celle de Caïn, mais que l'offrande de Caïn n'était pas la meilleure parmi celles qu'il aurait pu faire à Dieu. Et cette offrande révèle l'état de son cœur devant Dieu, et cet état du cœur de Caïn est préoccupant. Et l'apôtre Jean, quand il commente ce passage dans sa première lettre, quand il commente le récit de Caïn, il dit « Caïn a égorgé Abel ». Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Et quand il parle de sa façon d'agir qui était mauvaise, il ne parle pas du meurtre. Il parle d'avant le meurtre. Et l'expression « sa façon d'agir était mauvaise » suppose une régularité dans cette mauvaise façon d'agir. Une continuité. Il ne s'agit pas d'un problème survenu du jour au lendemain. Caïn n'est pas dans une bonne attitude devant Dieu. Il n'est pas dans les bonnes dispositions quand il fait son offrande. Et on le voit aussi dans sa réaction. Il se renfrogne, il se met en colère. Il est fâché que Dieu n'ait pas accepté son offrande. Et ça se rapporte ou se reporte sur son frère. On voit que Caïn est plus dans la comparaison, dans la compétition avec le frangin et peut-être même dans la transaction avec Dieu, il veut que son offrande soit acceptée. Et il veut faire de l'autre Dieu son obligé à moindre frais. Et un autre auteur nous parle de ce récit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de la foi. Par la foi, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Et on ne dit pas grand-chose de Caïn, mais on comprend que Caïn manque de foi. Alors, ce n'est pas la foi ou le manque de foi, incrédulité ou l'athéisme, puisque Caïn adresse quand même une offrande à Dieu, mais la foi qui touche à la confiance et, osons dire, à l'amour pour Dieu, une foi qui se donne, qui donne ce qu'il y a de meilleur sans rien attendre en retour, surtout qui ne cherche pas à faire de Dieu son obligé, obliger Dieu à rendre. Parce qu'un commentateur faisait cette belle remarque, c'est que dans l'absolu, Dieu, il n'a pas besoin de ses offrandes. Il n'est pas carnivore, il n'est pas végétarien, il n'est même pas végétalien, pour être dans le coup. Ces offrandes ne l'intéressent que lorsqu'elles sont l'expression d'une foi, d'une adoration, d'un amour, d'une relation, comme le disait Laurence tout à l'heure. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le répète un peu plus loin. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans cette relation de dépendance, d'amour, il est impossible de plaire à Dieu. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout est fini pour Caïn ? Il agit mal, il manque de foi, il fait une offrande pourrie. C'est mort pour lui. Non, le récit montre qu'une autre suite aurait été possible et nous dit aussi dans un certain sens, répond à la question, comment réagir quand on a fait une erreur? Et la question de la réaction est tellement importante. Et on va voir que Dieu, dans le récit, ne va pas laisser Caïn dans sa faute, il va intervenir et le dialogue est très intéressant à suivre. Et ce dialogue va révéler toute la sollicitude de Dieu à l'égard de Caïn. Même, donc, on est avant le meurtre, là. Dieu rentre dans un dialogue avec Caïn, et au lieu de lui faire des reproches, pour son offrande pourrie, il va l'appeler et l'inviter à réfléchir sur lui-même et au pourquoi de sa colère. Il va le faire en trois phrases. Caïn, cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Et on voit là, à l'est d'Éden, on voit James Dean là, qui baisse la tête. Là, hein. Et on voit dans un autre film, la haine, là, le visage qui s'assombrit. Comment en est-on arrivé là? Mais Dieu intervient et Dieu parle à Caïn. Et il va lui dire d'abord, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Et on s'aperçoit là que Dieu n'est pas seulement pédagogue, comme on l'a vu avec Jacob ou Joseph, mais aussi fin psychologue. Et Dieu sait, psaume 139, toute la charge émotionnelle que l'on peut avoir suite à une déception. Et il sait aussi l'escalade vers des actes violents que peut engendrer si on laisse une réaction émotive prendre le dessus. D'ailleurs, nous qui connaissons la suite, on aura noté la disproportion entre l'affaire et la réaction à l'affaire. Une offrande non acceptée d'un côté et un meurtre, une vie ôtée de l'autre. C'est complètement disproportionné. Un meurtre parce qu'on est vexé. Et c'est une disproportion qui est totale et qui est aussi typique de la vie humaine quand il n'y a pas réflexion, quand il n'y a aucun recul et quand on laisse libre cours à ses émotions. Et les exemples sont nombreux dans l'actualité de notre monde, mais pas seulement, dans nos vies personnelles et relationnelles également. La disproportion, parce qu'on laisse libre cours à ses émotions et qu'il n'y a pas ce recul. Mais Dieu, à Caïn, et le plus doucement possible, lui suggère de prendre du recul et de faire un travail sur lui-même. Pourquoi es-tu fâché? Parce que Dieu veut arriver à ce que Caïn puisse mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans son offrande. Et surtout dans sa vie de foi. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là et Caïn aurait évité l'escalade de la violence. Mais non, Caïn ne fait pas ce travail sur lui-même. Et pourtant, Dieu insiste et va lui dire « Si tu agis bien, tu le relèveras ». Et cette parole de Dieu répond un petit peu à la situation de Caïn qui baisse la tête au verset 5. En fait, là, on a traduit « Pourquoi ton visage est-il si sombre ?» c'est littéralement « Pourquoi ton visage est tombé ?» Et au verset 7, Dieu parle, et c'est le verset 7, « Si tu agis bien, il y aura élévation pour toi. » Au verset 5, Dieu ne regarda pas d'un regard favorable l'offrande de Caïn, et Caïn se mit dans une grande colère et son visage tomba. Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi ton visage tombe-t-il ? » Et verset 7, « Il y aura une élévation pour toi. » Et Dieu veut relever le visage de celui qui tombe. Et le verbe « relever » dans l'Ancien Testament peut parfois dire « pardonner », ce qui serait magnifique en l'espèce. Mais ici, ce serait plutôt « faire bon accueil » à quelqu'un, comme peut-être relever une personne qui se prosterne devant vous ou devant Dieu. Et c'est une magnifique invitation de la part de Dieu qui dit à Caïn, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme, tu as fait une erreur, tu peux recommencer de zéro si tu agis bien, c'est-à-dire si tu changes ton attitude de cœur, ton offrande va me plaire au plus haut point. Si tu circoncis ton cœur, si tu changes ton cœur, si tu te repens, si tu te convertis. Et cette promesse d'élévation pour Caïn est une grâce que Dieu lui fait, une seconde chance, troisième chance, quatrième chance, pourquoi il n'y en aurait que deux? Et la grâce est omniprésente dans le récit, mais Caïn, de nouveau, ne la saisit pas. Pourtant, Dieu insiste encore avec une dernière phrase sous forme d'une mise en garde, mais avec une promesse aussi. « Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. » La mise en garde, c'est que le péché est tout près. Et on a souvent pensé qu'il était couché comme un animal sauvage prêt à bondir, un petit peu comme le lion rugissant de l'apôtre Pierre, hein, Pierre 5, il me semble, un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais ici, les spécialistes de l'hébreu, que je ne suis pas, nous parlent plutôt d'une personne à la porte, couchée à la porte dans une attitude de séduction. On ouvre la porte, on franchit le seuil et le péché vous fait votre affaire. Alors le résultat est le même, hein, une mise en garde contre la séduction du péché et sa voracité. Mais il y a une promesse, mais toi domine sur lui. Et pour nous dire, même si c'est très tôt dans la révélation, qu'il n'y a pas de fatalité du mal ou du péché. Et pourtant, les premiers chapitres de la Genèse nous dépeignent un monde où personne ne résiste vraiment, où le mal atteint toutes les dimensions de la société et atteint aussi des proportions tristement considérables. Même les patriarches sont touchés. Vous vous souvenez, Abraham, Isaac, Jacob, il n'y a que Joseph qui s'en sort honorablement. Mais le tableau est quand même sombre et la Bible nous met devant la vulnérabilité de l'homme par rapport au péché et au mal. Et dans la vie chrétienne, on doit le reconnaître, on se sent bien vulnérable. Et on sait que nous péchons encore, comme le disait Luther, justifiés mais toujours pécheurs. Mais paradoxalement, cette prise de conscience de notre vulnérabilité par rapport au péché pourrait nous faire entrer dans un certain fatalisme et même un certain défaitisme par rapport au mal, du genre « bon, c'est perdu d'avance ». Et ce défaitisme nous amènerait également à baisser la garde dans ce combat contre le mal. Mais Dieu nous dit, comme à Caïn, « Mais toi, domine sur lui ». Alors ce texte n'enseigne pas que l'être humain puisse se dégager de ses inclinations au mal par ses propres forces et sans le Seigneur, mais il dit que l'être humain fait à l'image de Dieu doit s'engager dans ce combat décisif, qui n'est pas une pure victime de la société ou de lui-même ou de son éducation ou de ses propres pulsions, mais qu'il est aussi responsable dans ce combat et qu'il est appelé à rentrer dans une résistance active. Pour Caïn, c'était difficile, mais pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous pouvons nous saisir de cette promesse d'autant plus facilement que l'on peut compter sur la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Alors on est déjà un petit peu entré dans l'application pour nous aujourd'hui de ce récit de Caïn et Abel. Et il y aurait bien des choses encore à dire sur l'après-meurtre, surtout, et sur le deuxième dialogue que Dieu initie avec Caïn, avec cette question « Où est ton frère ?» qui montre toute la sollicitude de Dieu, encore une fois, toute la recherche de Dieu, de la communion avec ses enfants créés à son image. Et puis la réponse encore brutale de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» qui montre qu'il y a encore du travail, que tout n'est pas résolu. Mais je voudrais revenir à nos quelques idées forces et aux applis pour nous, applications. La question de l'offrande, que disent nos offrandes? Parce que l'offrande de Caïn et Abel nous font penser à nos offrandes qui peuvent être de diverses natures, du temps que nous donnons à Dieu, de l'énergie que nous donnons à Dieu, les ressources humaines et financières que nous donnons à Dieu. Et le récit de Caïn nous amène à nous demander si ce que nous donnons au Seigneur représente le meilleur de ce que nous pouvons donner, ou au contraire, nous lui faisons une offrande quelconque pour garder ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et la question qui se pose est de savoir si avec moi, Dieu a droit au meilleur. Ce n'est pas une question quantitative, mais qualitative. Est-ce que Dieu a droit à mon best ou comme à mon meilleur, ou comme disent les Anglais, à mon second best, mon deuxième meilleur, ou à une offrande, ou Dieu a-t-il droit à une offrande de première qualité? Et quand on parle de qualité, on a bien vu avec Caïn qu'il n'est pas question de la valeur intrinsèque de l'offrande, mais de la disposition du cœur qui l'accompagne, la foi qui l'accompagne. L'offrande comme une expression de la foi. Et là aussi, on peut s'interroger sur le fait que si nous ne donnons pas au Seigneur le meilleur de ce que nous avons, cela pourrait signifier qu'il ne représente pas non plus la personne la plus importante à nos yeux. Si j'offre un cadeau quelconque, ou même juste en dessous du meilleur à Dieu, et que je garde le meilleur pour moi, que je garde le very best pour moi, cela pourrait vouloir dire que Dieu n'est que second dans ma vie, après moi. Vous voyez, au-delà de la question de l'offrande, dont Dieu, de toute façon, n'a pas besoin, comme pour les offrandes de Caïn et Abel, son exigence du meilleur renvoie en fait à sa volonté d'occuper dans nos vies la première place. À nous peut-être d'opérer ce fameux décentrement dont on parle si souvent aujourd'hui pour lui laisser la toute première place parce que, comme ne le disait pas L'Oréal, il la vaut certainement. Deuxième appli pour nous, quelle est notre réaction quand on a fait une erreur, quand on a fait un faux pas? Parce que la question à se poser dans la vie chrétienne n'est pas de savoir si l'on va pécher ou faire des erreurs ou faire des faux pas, on va en faire. Mais la question de savoir, c'est comment on va réagir. Et beaucoup dépendra de cela, de la réaction. Et la question de la réaction se pose particulièrement dans les situations où on a l'impression de subir une injustice, où on a l'impression de ne pas avoir été traité correctement. Il y a la réaction de Caïn, de se laisser enfermer dans la spirale du ressentiment et de la colère, et l'autre, d'opérer ce retour sur soi et se poser la question « Pourquoi suis-je fâché ?» Et ce travail intérieur éclairé par le Saint-Esprit peut se faire éclairé par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité sur nous-mêmes. Une vérité qui nous rend libres et qui nous permet d'échapper à la spirale de la violence ou du péché qui nous conduit de la haine, de la jalousie, etc., qui conduit à la violence. Il y a un autre aspect du récit de Caïn qui nous vient de cette expression de ce péché qui est couché à la porte et qui attend l'occasion, mais cette occasion vient parce que Caïn, quelque part, a déjà choisi. Je vous rappelle le texte, « Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte. » Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte. On a vraiment l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est bien l'intention de l'auteur, de montrer que le péché, tapis à la porte, profiterait d'un choix préalable, si tu n'agis pas bien. C'est la décision de mal agir que Caïn prend avant, qui donne en quelque sorte prise au péché, qu'il n'attend que cela pour bondir ou pour séduire. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais on le voit dans les situations concrètes de la vie, on se met parfois dans des situations où l'on donne prise à l'adversaire. Des situations qui vont nous mettre sous la pression de continuer à pécher. Et on voit cela par exemple dans le mensonge, le petit mensonge, mais qui en appelle un autre pour couvrir le premier. Et qui nous entraîne là où, dans une vie de mensonge. On voit aussi parfois dans des décisions prises dans le domaine des relations amoureuses, amicales, professionnelles même, qui nous entraînent parfois là où nous ne voulions pas aller et dans des situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. En prenant des décisions préalables, on donne prise au péché dans notre vie et on est entraîné. Et l'histoire de Caïn nous rappelle de ne jamais laisser ouvrir la porte, de jamais laisser une emprise, une prise à l'adversaire ou accès au diable. Et puis, dans ce tableau qui pourrait être bien sombre, il y a la grâce. La grâce qui, même dans ce récit, affleure de ci, de là, comme des îlots de salut dans une mer agitée. Et j'aime tellement ce verbe dont on a déjà parlé, ce verbe « relever » du verset 7, qui fait donc écho à ce visage qui tombe, emporté par le poids de la faute, de la culpabilité, ou de son manque de foi, de sa colère, de sa jalousie, de sa haine, ce visage qui tombe. Mais toi, relève la tête, il y a élévation pour toi, la promesse de la grâce est là, l'appel de la grâce est là, l'invitation est donnée. Relève la tête, il y a élévation pour toi. Mais il faut s'en saisir, il faut se saisir de cette grâce et on sait ce que Caïn a fait. Mais que faisons-nous quand notre visage tombe? Pour une raison ou une autre, allons-nous nous saisir de la grâce ? Amen.